Québec, 95.7 Saguenay. Le show du matin avec Dominique Fortin, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
Il est 7h52 en ce 20 octobre. Ça commence à se dégager à deux places. D'abord, sur Sainte-Geneviève, on est revenu à la normale, donc ça circule bien. Et le brouillard commence à lever tranquillement, pas vite. Et ça annonce quand même du beau temps. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Vous aurez des percées de soleil maximum aux alentours de 10 degrés avant le retour des nuages jusqu'à dimanche ou lundi prochain. Sinon, les problèmes de la rue Racine qui s'accentuent, ça alimente beaucoup de discussions. Vous avez eu un drame épouvantable il y a quelques semaines à peine, alors qu'un individu sans domicile fixe s'est immolé, évidemment par le feu. Il y a eu une autre tentative de mettre fin à ses jours qui a forcé une intervention policière quand même assez majeure. Vous avez eu un meurtre la nuit dernière, dans la nuit de lundi à mardi. Fait que, tu sais, ça commence à brasser, les commerçants commencent à trouver ça lourd et tout le monde trouve ça lourd. Maintenant, il n'y a pas de solution parfaite et à court terme, il n'y a pas de solution qui vont régler tous les problèmes, mais assurément, il y a des pistes d'explication et de solutions qui seront abordées. On va en parler avec le directeur général de la Maison des Sans-Abri, Michel Saint-Gelais, qui est en studio ce matin. Monsieur Saint-Gelais, bon matin.
Bonjour.
Évidemment, tous les individus concernés dans les derniers événements, c'est des individus que vous connaissez personnellement.
Oui, malheureusement, oui.
Peut-être pour parler des problèmes qui se passent sur la rue Racine, là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il nous semble que c'est pire qu'avant?
C'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte que la problématique, elle est de plus en plus visible. On n'était pas visible avant. On parlait souvent en région de sans domicile fixe, puis d'itinérance cachée, difficile à compter, difficile à reconnaître. Depuis plus de deux ans, depuis avant la pandémie, là, on le voit, il y a une dégradation du niveau de vie, là. Il y a un appauvrissement, il y a une difficulté d'accès au logement qu'on avait moins avant. Tout est difficile, tous les liens sont brisés avec
tout le monde. Juste pour être sûr, là, quand vous dites que c'est pire depuis deux ans, est-ce que c'est vraiment de la migration d'itinérance de d'autres régions ou on parle vraiment de notre monde ici?
On parle de notre monde parce que la migration, comme tu dis, Martin, elle existait avant.
OK.
Puis depuis le début de la pandémie, on n'en voit à peu près plus de ça, de mobilité interrégionale. Fait que c'est notre monde à nous. Mais c'est des nouveaux visages. C'est des gens qu'on n'avait pas connus dans les deux, trois dernières années qui cognent à nos services. Il y a une crise du logement qui est là. Il y a une crise de l'accessibilité aux services en santé mentale, en toxicomanie. Malgré tout ce qu'on essaie de faire, là, on améliore les services, mais c'est difficile. Il y a une problématique majeure qui est là. Santé mentale, toxicomanie, judiciarisation, manque de ressources. Ça donne ce que ça donne là. Beaucoup de présence au centre-ville. Beaucoup de problématiques visibles.
Puis, tu sais, on est en campagne électorale. Là, quand même que tous les candidats vous diraient, on va redorer l'image du centre-ville, on va bâtir des bâtisses, on va l'occuper. Moi, ce que j'appelle la gentrification, ça règle pas le problème, ça le déplace.
Mais ça réglera pas le problème. Puis ça va le déplacer, puis ça changera rien. L'ensemble des services sont au centre-ville pour les personnes en situation d'itinérance puis de vulnérabilité. Donc, il faut qu'ils soient au centre-ville, ces gens-là.
Mais est-ce que... Et souvent, on entend ça, là, puis c'est-tu pire depuis... puis c'est une impression qu'on a depuis que le 21 Presse a brûlé puis depuis que l'autre édifice également à l'autre bout de la rue Racine a brûlé?
Bien sûr, c'est pire. C'est des endroits, c'est des espaces locatifs abordables, accessibles, sans préjugés, sans jugement, sans enquête de crédit puis sans référence, qui acceptaient la personne comme elle était, malgré qu'elle allait avoir des comportements qui allaient être désagréables. Le 21 Presse était très accueillant. D'autres maisons de chambre qui ont passé au feu, on en a une ou deux par année. Bien, ça, c'est des places qui ne sont pas redonnées après ça dans la communauté. Elles disparaissent tout simplement.
Sauf que c'est un peu comme soulever son tapis. T'sais. Ça nous faisait plaisir parce que c'était sous le tapis. Mais là, maintenant que le tapis a passé au feu, on le voit.
On le voit. Moi, j'étais pas content que le 21 Presse soit fermé, soit débâti. Il y a des gens qui se faisaient une petite victoire de ça, une petite joie, mais non. Les gens sont à la rue. Est-ce que ça va mieux depuis que le 21 Presse n'existe pas? N'existe plus? Non, ça va pire.
Un événement comme hier aurait très bien pu se passer à l'intérieur des murs du 21 rue Presse.
Oui, ça arrivait à peu près jamais. C'est rare, des événements comme hier. C'est un événement isolé, c'est un événement ponctuel. On espère que ça ne se reproduira pas. Sauf que depuis quelques semaines, vous l'avez dit, vous l'avez remarqué, il s'embrase des affaires au centre-ville.
Oui. Mais y a-tu moins de services qu'avant? Parce que là, on dit, bon, il y a moins de maisons de chambre comme le 21 Presse. Ça, c'est un fait. Mais les gens sont-tu moins encadrés qu'avant? Y a-tu moins de services qu'il y a 2-3 ans? C'est dur de mettre le doigt exactement sur pourquoi c'est rendu comme ça.
Je pense pas qu'il y a moins de services. Les services avec les partenaires communautaires, avec les partenaires du CIUS, sont tout le temps en évolution, sont tout le temps en augmentation de services. On est chanceux? Bien, on est chanceux. Le gouvernement Trudeau nous a donné plus d'argent pour lutter à l'itinérance. Dans les dernières semaines, on a vu que le gouvernement de M. Legault, il y avait une enveloppe de près de 300 millions pour lutter contre l'itinérance. Tout le monde est sensibilisé, tout le monde est mobilisé. Fait que l'argent rentre par compte-goutte. Là, elle va finir par rentrer un peu plus quand même, mais l'accessibilité dans le réseau, là, toxicomanie, santé mentale, c'est difficile. De donner le diagnostic, c'est difficile. De maintenir la personne en bonne condition pour qu'elle prenne sa médication comme il faut, qu'elle suive les recommandations du médecin. Mais quand on a moins accès à l'individu dans son chez-soi, parce que son chez-soi, il n'y en a plus, puis il est très, très, très mobile, c'est difficile d'accompagner puis de maintenir un comportement qui a du bon sens.
Oui, c'est un peu ce que j'allais te demander comme question. C'est quoi lutter contre l'itinérance? Ça veut dire quoi? 300 millions, ça sert à quoi cet argent-là?
Bien, il faut qu'on en mette beaucoup en prévention, parce que là, il faut fermer le robinet éventuellement. Il faut pour lutter...
OK, c'est là qu'il faut commencer là.
Ah bien, il faut commencer là, c'est comme dans tout. Là. Si on veut arrêter le cancer, il va falloir jouer sur ses habitudes de vie et tout et tout. Pour l'itinérance, bien, il faut le faire aussi, il faut le faire en prévention, en éducation. Un des meilleurs facteurs de protection, c'est clairement l'éducation puis la prévention qui va donner ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre gang qui... On a la difficulté à les accompagner dans les services, la mobilité est là... L'argent n'est jamais au rendez-vous dans la poche du monsieur, dans la poche de la madame. Là. Comment est-ce qu'on veut s'en sortir avec 718$ par mois? Ah, il y a eu une augmentation de 8 à 12 $ dans la dernière année. C'est merveilleux. Mmh. On manque d'argent, on manque d'accessibilité aux services, on manque de cohésion dans nos services. Il ne faut pas travailler la problématique, il faut travailler l'ensemble de la personne. On approche globale, une approche qui est communautaire. C'est un humain qui vient chez nous, il y a des problèmes, on va y travailler ensemble. Mais tout ensemble, sans en nier un pour en mettre un plus prioritaire.
Puis il y a un pourcentage qui est... Tu sais, j'aime pas dire ça parce qu'il y a toujours de l'espoir en ce bas monde, mais il y a un pourcentage d'irrécupérables aussi qu'il faut juste maintenir en vie.
Qui ne seront pas récupérables aujourd'hui, peut-être pas demain, mais la semaine prochaine, dans un an, dans deux ans.
Ah, vous perdez jamais espoir.
Ah ben, il faut pas. Ben, puis il y a un enjeu, hein, nos usagers, nos itinérants vieillissent. Tantôt, ils vont avoir une mobilité plus réduite. Puis un itinérant, on le sait, c'est que ça marche pas mal toute la journée. Ouais. Il va falloir adapter nos services à une population vieillissante. C'est un problème qu'on a, ça. Je me vois mal à envoyer M. Tremblay au manoir Champlain à côté de chez nous. Il est mal commode, M. Tremblay. Il va encore fumer son joint, il va encore prendre une coupe de bière, il va encore déranger. On a de la misère à les placer. On a de la misère à placer n'importe qui, mais plus les problématiques sont lourdes, plus c'est difficile.
Mais souvent, je travaille pas avec eux, là. Mais souvent, j'ai l'impression que ça commence par un problème de santé mentale pas réglé, qui vire en problème de consommation, puis là, ça devient un heureux mélange de tout ça. Et mon feeling premier, c'est que la désince est en grande partie responsable de ce qui se passe. De si on pouvait, à un moment donné, dire, regarde, le psychiatre, là, il voit, là, il est pas bien, puis il prend pas sa médication. Ben, si on pouvait les garder...
Posons la question, puis c'est un auditeur qui la pose, là.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on est rendu à un point où on peut parler de réinstitutionnalisation?
C'est dur. Hein? Malheureusement, je suis un peu jeune. Moi, la fermeture des institutions et tout, je n'ai pas vraiment senti. Mais je me disais dans les derniers mois, coudonc, on est-tu en train de vivre ça? Pourtant, non. T'sais, ça vient de la rue. C'est tout le temps le volontariat de la personne. Hein? C'est toujours les droits de la personne qui disent, on peut pas enlever les droits, on peut pas forcer quelqu'un à, effectivement.
Mais sont-ils toujours en mesure d'être capables de prendre une décision éclairée pour eux-mêmes?
Ah, ça, c'est bien embêtant. C'est clair que la réponse, c'est non. Mais ça dépend qui l'évalue, cette volonté-là puis cette aptitude-là à décider pour soi-même. Tu sais, on parle tout le temps, ils ont fait les mauvais choix, mais des fois, tu n'en as pas de choix. Fait que tu prends le choix que tu n'as pas, puis tu avances dans la vie, puis tu te dis, bien, je vais continuer comme ça, parce que je n'ai pas d'autres modèles, puis je n'ai pas d'autres possibilités. Puis on s'attaque souvent aux problématiques de la consommation et tout, mais c'est pas ça le problème. Si on s'attaque au problème qui a amené à la consommation, bien, on risque peut-être de mieux travailler avec la personne, de dire, faut que tu arrêtes de consommer. Bien oui, faut que j'arrête de consommer. Donnez-moi des éléments autour. Je peux pas vivre ma situation d'itinérance à frette, vierge. Excusez.
Non,
c'est correct.
C'est pas
correct.
Vivable pour une personne d'avoir des problématiques de santé mentale, de pas savoir s'il va dormir à quelque part, d'avoir peur, d'avoir faim, d'avoir froid.
Parce que moi, je trouve ça triste.
Prendre une pilule.
Puis, sincèrement, tu sais, on a choisi de dire, ces gens-là, on les garde pas parce que c'est pas humain de garder des gens contre leur gré. Mais je pense pas que ce soit plus humain de laisser des gens entendre des voix dans la rue puis avoir l'impression qu'il y a des gens qui les épient puis que ces gens-là se sentent obligés de consommer des drogues pour oublier tout ce qu'ils entendent autour puis le stress qu'ils envahissent, je trouve pas ça humain non plus.
On va couper ça de moitié-moitié, ouais. D'abord. On va investir dans le logement social supervisé. Ouais. On va me donner des logements que je vais être capable de gérer avec des partenaires du communautaire et du CIUS. Puis on va dire, ben, ça, c'est chez vous. Mais prends le temps de l'habiter, ton chez vous. Choisis ouais. La couleur de tes murs. Si tu veux pas de couleur sur les murs, c'est tout. Installe-toi là, à bas seuil. Là. Quand même que tu pèteras ta coche, que tu auras fait quoi que ce soit, ben, on va te garder pareil, puis on va te maintenir comme ça. Puis on va créer un lien de confiance. Puis on va amener les professionnels chez vous. Ouais. On va aller voir chez vous, mais pas, c'est pas compliqué, là. Du logement social supervisé qui va coûter juste 25 % du revenu de la personne au lieu de 90-95 %, puis qu'on va dire, bien ça, c'est chez vous. Parce que là, quand si je décide de placer Martin dans un toit et demi à Rivière-du-Moulin, ça va bien beau être que je vais te le payer un an. Si tu te sens pas bien chez vous, c'est pas ton secteur, tu ne l'habiteras pas, ton logement. Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment y aller en fonction du besoin de la personne.
Mais c'est-tu difficile de... Parce que, tu sais, moi, je me mets dans le pot de... Tu sais, tu viens me voir, puis tu me dis, « Hey, j'ai besoin d'un immeuble pour mes gars. » Puis moi, je suis un gars qui veut faire de l'argent avec mes logements, puis je me dis, dans quel état vont être mes logements, puis ça va être des problèmes, puis je vais être toujours obligé d'être en collaboration. Tu sais, c'est un travail à temps plein, là.
C'est un travail à temps plein, puis c'est ce qu'on fait depuis quelques années. Le gouvernement fédéral nous permettait d'appuyer le placement en logement, aider à payer des mois de loyer, une épicerie, des kits d'hygiène pour être propre dans la vie, aider avec le propriétaire. Si tu as des bris, on a un budget, on va te réparer. Puis moi, tous les premiers du mois, je vais payer des logements, un compte de banque des propriétaires, pour être sûr que le premier, en tout cas, que le loyer est payé. Puis si la personne a de la difficulté, moi, je l'aide un petit peu. Mm-hmm. On est quand même 9 organismes à faire ça, là. Fait qu'on est, plusieurs intervenants qu'on est capable. On a un fonds qui est assez intéressant, là, plus de 25 000 $ pour aider ces gens-là à se passer en logement. Mais il faut faire de la prévention, puis il faut rester proche avec le propriétaire. Puis l'idée, c'est qu'on va être en prévention d'une... Quand je vais aller voir M. Tremblay, si je vois que son appartement commence à être sale, bien, on va intervenir, là.
Okay.
Mais ça prend des propriétaires privés qui vont l'ouvrir, cette porte-là. Puis je les comprends, c'est pas toujours évident. Quand on dit, ouais, mais moi, c'est un bloc d'étudiants. Si je m'envoie un gars là-dedans qui fait le party, ça fera pas. Effectivement.
Ça prend des logements finalement dédiés à ça.
Oh, dédiés
oui.
à ça.
Puis je comprends bien également que s'il y a un suivi de santé mentale à faire, que le psychiatre se déplace...
Ce serait le fun.
Au lieu que de dire à toi, il faut que tu ailles voir ton psychiatre à l'hôpital quand on sait très bien qu'il le fera pas.
Ben oui, puis pourquoi tu ne prends pas tes pilules? Mais viens chez nous actuellement, tu vas le voir, pourquoi je ne prends pas mes pilules? Parce que je me fais voler, parce que je me fais menacer, parce que... Puis parce que, ben vous m'avez donné tant de morphine dans la vie. Après ça, vous m'avez coupé parce que j'en ai abusé. Fait que là, il faut bien que j'aille en chercher ailleurs. Parce que pas de même... C'est compliqué, là. C'est pas si simple que ça. Tu sais, il y a des choses simples dans la vie. T'as pas d'argent à manger, arrête de fumer, tu vas pouvoir manger. Coupe-toi le corps, t'as pas besoin de la TV. Ouais, mais tu vis de l'isolement, tu vis toutes sortes d'affaires. Tu sais, la pandémie, là, c'est une crise qui est quand même silencieuse. Le monde qui sont isolés, qui avait plus de place à aller... Tu peux plus y aller, prendre ton café au Subway puis aller à la bibliothèque. Là, ça a été dur pour ces gens-là. Santé mentale a été impactée. Les liens avec le réseau ont été brisés. On essaie de récupérer tout ça, mais ça va nous prendre quoi? 10 ans récupérer de ces 2 ans de pandémie-là? Il y avait la machine à imprimer de l'argent partout, mais il n'y en a pas eu pour mes gars. Il n'y en a pas eu d'argent.
Les gens ont peut-être peur de tes gars. Ils ont-tu raison?
Je comprends.
Ils ont-tu raison d'avoir peur? Ils ont-tu raison d'avoir peur du centre-ville?
Ben non, mes gars ont bien plus peur de la police que le monde a peur de mes gars. On veut pas en rajouter une couche, mais là, avec des événements comme on vit là, je comprends le monde d'avoir peur. Puis je les comprends, nos commerçants du centre-ville, de dire, là, faut faire de quoi, nos clients vont avoir peur. Puis moi, je veux un centre-ville en santé, une ville en santé, sinon, comment est-ce qu'on fait pour aider? Tantôt, on va déménager à peu près à 600 mètres d'où ce qu'on est présentement. Ce sera pas un soulagement pour le centre-ville automatique, là. Moi, je ne vais pas interner mes gars dans ma nouvelle maison.
Ouais.
Ils vont quand même être obligés d'aller sur la rue Racine parce qu'ils vont quêter encore. Ils vont encore aller à l'aide juridique. Ils vont encore aller à Soupe Populaire, au CLSC, à Service Québec. Fait que moi, puis c'est un enjeu qu'on a discuté avec Mme Laforêt. On ne va pas vous cacher ailleurs qu'au centre-ville, loin de vos services. On va rester là. Ben, notre maison, l'est en tant que telle, au coin de la Fontaine et Racine, elle va être sûrement détruite, là. Mais nous, on va être là encore, l'itinérance, parce que c'est le centre-ville de Chicoutimi.
Exact.
Mais est une vraie ville, on a des itinérants.
La nouvelle maison pour sans-abri, avec le nouveau centre dédié pour la santé mentale à côté, est-ce que c'est un bon avancement pour régler les problèmes ou ça va prendre encore plus que ça?
Ben, c'est un maudit bon coup de départ, en tout cas. Parce que là, c'est sûr que les services, autant en santé mentale, en crise qu'en itinérance, vont être vraiment bonifiés si on trouve le financement qu'il faut pour après. Là, c'est beau la construction, le déménagement, mais on va le trouver ça. Ça va être un gain pour tout le monde. Ça va être un gain. Je vous donne rien qu'un exemple. Moi, dans mon monastère, si je peux le dire comme ça, ça va être des chambres individuelles. bien plus le fun de dormir tout seul dans ta chambre que de dormir à 4-5, d'avoir peur de te faire voler. Fait que là, il va avoir vraiment une dignité, il va avoir une hygiène de vie qui va être beaucoup plus facile pour les personnes en situation d'itinérance. On va pouvoir bonifier nos services. Je n'ai pas de place. J'ai deux bureaux dans la maison pour 6-7 intervenants. Là, c'est n'importe quoi. Dans cette nouvelle structure-là, on va être en mesure de beaucoup mieux aider, mais ça ne réglera pas tous les problèmes.
Ouais.
Ça va nous en régler une partie.
Comme citoyen, je peux faire quoi? Je donne un exemple. L'autre jour, je suis coin Price et Saint-Paul. Bon, en plein trafic, il y a un individu qui arrive qui est pas mal habillé, mais il est en train de faire du kung-fu imaginaire. Là, mais vraiment, là, il est complètement désorganisé. Il frappe dans le vide, il crie. Comme citoyen, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec cet individu-là?
Vous pouvez m'aider, vous pouvez mettre de la pression dans le système en déclarant, en appelant la police, en appelant n'importe qui. Il faut qu'on en parle, puis il faut qu'il y ait... C'est comme dans tout ça, plus on va avoir de problèmes qui vont être nommés, plus on va nous demander de trouver des solutions, puis plus on va être appuyé pour ces solutions-là. Là, on a un maudit beau moment pour demander à nos personnes qui se présentent à l'élection, là, nos conseillers, conseillères, maires, mairesse, faites de quoi? Annoncer quelque chose? On n'en parle pas de ça. Je viens de voir tantôt, là, peut-être M. Simard voudrait donner une partie de sa paie s'il est élu pour aider. Mais il faut faire quelque chose. Là. Il faut que la communauté se mette ensemble.
Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça passe par le logement.
Mais ça passe par le logement. Puis la problématique, le premier palier que ça touche, c'est le municipal.
Mm-hmm.
Quand ça va pas bien dans la ville, c'est la ville qu'on appelle.
Mm-hmm.
Pas à Québec, puis c'est pas à Ottawa non plus. Là. Ça prend du logement social. Ça prend du logement social, puis ça prend du logement social.
Hey, avant de se laisser,
oui.
Ça a l'air que vous avez une surprise.
Je sais pas.
Ben, on a parlé oui. Abondamment du cœur de Dominique Racine, de Monseigneur Racine.
Vous l'avez retrouvé.
Non, je l'ai pas retrouvé, mais semble-t-il que vous auriez peut-être une option de remplacement?
Ouais, mais faut négocier. Parce que peut-être, mais c'est pas à moi véritablement, là, mais je m'approche de posséder par contact interposé un cœur.
Parce que là, ça a l'air que dans le mur de la chapelle de la nouvelle maison pour sans-abri, là, il y a un cœur dans le mur.
Effectivement, il y a un cœur. Il y a le cœur de Monseigneur Labrec qui est là, qui a été le Monseigneur qui a appuyé la congrégation à son début.
Okay.
Les accueillir dans la région, puis démarrer
troisième
tout
évêque.
Ça. Là.
Troisième évêque de la ville de Chicoutimi.
C'est lui qui a décidé d'accueillir les servantes du Très-Saint-Sacrement.
Mais là,
son cœur est là.
Mais là, ce cœur-là peut... Le mur ne peut pas rester là, c'est ce que je comprends.
Ben, c'est le cœur. Le mur va rester là, mais le cœur va devoir trouver un endroit ailleurs parce que la chapelle a été désacralisée par Monseigneur Renégué.
Okay.
Fait que là, c'est sûr que le cœur devra quitter parce que, en tout cas, vous me surprenez un peu avec votre question, mais ce que j'en sais, c'est qu'on n'a pas le droit, nous, d'acheter ou de vendre un cœur de même. Ben, n'importe quel bout humain.
Il faut sortir le cœur de là.
C'est du trafic d'organes humains, ça.
Ben, on ne veut pas embarquer là-dedans.
Il est mort en 1930. Il n'y aura pas grand-chose à voir.
C'est une relique importante pour notre communauté.
Ben oui.
C'est sûr que, puis là, je peux rassurer la communauté. Nous, on n'ira pas dans la chapelle à la maison d'accueil pour sans-abri. On n'ira pas vivre là, puis on n'ira pas foutre le bordel, puis on ne le vendra pas en pièces détachées.
Okay.
La fondation de Mgr Léonce Bouchard, qui est propriétaire de la bâtisse, va s'assurer de conserver cette chapelle patrimoniale, entre guillemets, là. C'est très beau.
Fait que le cœur pourrait rester là.
Spectacle, mais je pense pas que le cœur va rester là.
Non,
là,
OK.
Mais...
Fait qu'on a un problème de cœur.
On a un problème de cœur. On a trop de cœur.
C'est correct.
C'est un problème que je vis tous les jours.
Michel Saint-Gelais, merci beaucoup.
Ça se fait plaisir.
Bonne journée. 8h10, Michel Saint-Gelais, donc, qui est directeur général de la maison pour Sans-abri de Saguenay.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. Kick 95.7, Saguenay.